Merci, bonsoir messieurs, dames. Merci monsieur le maire de m'accueillir et à Fanny de m'accueillir avec autant de gentillesse. C'est vraiment un plaisir d'être invité à Sainte-Afrique. Et en effet, je le reconnais, un addict au Roquefort. Je trouve que c'est une bonne addiction. Et pour enchaîner, si vous voulez, quand même, sur ce que on peut évoquer pour qu'on ne confonde pas un peu les pratiques, retenons que nous appellerons addiction des comportements qui deviennent plus forts que le sujet lui-même parce qu'il se rend prisonnier d'une substance ou d'une pratique dont il ne peut plus se passer. L'addiction, c'est ne plus pouvoir s'arrêter, ne plus pouvoir se passer de quelque chose qui est soit en effet une substance, le tabac, l'alcool, le cannabis, d'autres drogues, certains médicaments, parce qu'on parle toujours des drogues illicites, mais il y a des drogues licites qui sont tout à fait addictogènes, en particulier les somnifères, les anxiolytiques. On estime, par exemple, si vous voulez, qu'au bout de 3 semaines de prise d'anxiolytiques, de manière régulière, on commence à rentrer dans un dispositif d'addiction. C'est-à-dire que la répétition de certaines pratiques amène le sujet à devenir dépendant de cette pratique. Et là, il se passe des phénomènes qui sont compliqués, parce que autant on peut comprendre, si vous voulez, que certaines substances comme le tabac ou l'alcool suscitent en eux-mêmes, ont un fort pouvoir addictogène en soi, par les effets sur le cerveau, autant on a du mal à comprendre comment le jogging peut être une addiction. Mais oui, ça peut être une addiction, bien entendu, parce que la répétition de ce type de conduite amène la sécrétion de certains neuromédiateurs dans le cerveau qui rendent dépendants. Et j'ai une de mes voisines qui est, elle le reconnaît d'ailleurs, addict au jogging, elle ne peut pas commencer la journée sans aller courir parce que c'est devenu chez elle un besoin. Donc on retiendra que ben, y a beaucoup de choses, hein. Y a beaucoup de choses qui sont addictogènes et évidemment il faut essayer de mieux les comprendre comment ça fonctionne pour, en ce qui concerne les adolescents, essayer de prévenir certains de leurs problèmes. Alors qu'est-ce qu'ils ont comme principale addiction qui les guette? Ils ont des codes de consommation à défaut d'avoir des rites de passage. Vous savez que dans les sociétés traditionnelles, le passage de l'enfance à l'âge adulte se fait avec des rites qui sont développés par les adultes et qui consistent à exposer les jeunes gens à diverses expériences qui leur permettent de passer de l'état d'enfant à l'état d'adulte. Nos sociétés modernes ne disposent quasiment plus de rites de passage, puisque les rites sociétaux qu'on reconnaît encore comme à peu près rites de passage, c'est en gros le BAFA, la conduite accompagnée, le permis et le bac. Ça fait quand même pas beaucoup de choses pour intégrer vraiment qu'on est en train de changer d'état, de passer de l'enfance à l'âge adulte. Et d'autant moins que la période justement de transition, qui est normalement l'adolescence, elle tend à se dilater dans le temps. Je vous rappelle que normalement, au sens étymologique du mot adolescence, c'est le participe présent du verbe latin adolescere, qui veut dire en train de grandir, en train de croître, en train de pousser, comme on le dirait d'une plante. Donc, normalement, la vraie adolescence devrait démarrer à la puberté, début de la période de croissance, comme on le dit très bien, les mots le parlent d'eux-mêmes, et la fin de la période de croissance, si la puberté c'est à peu près 12 ans, 12 ans et demi chez les filles, 13 ans, 13 ans et demi chez les garçons, la fin de l'adolescence, vraiment au sens strict, ça serait 16, 17 ans, allez, allons jusqu'à 18 ans, et donc les vrais adolescents devraient être les 12, 18 ans. Mais vous voyez bien, comme moi, que c'est devenu une nébuleuse qui commence avant la puberté, les fameux pré-ados sont en réalité des enfants, sur le plan biologique, mais qui se reconnaissent déjà dans des rites de consommation adolescente. Et à 18 ans, bien entendu, c'est loin d'être terminé, puisque bon nombre de jeunes gens qui vont avoir 20 ans, 21, 22, 23 ans, et même allons jusqu'à 25 ans, ces jeunes gens-là ne sauraient pas dire si ce sont des jeunes adultes ou des vieux adolescents. Donc, cette nébuleuse, elle n'est pas ancienne. C'est une nébuleuse qui est largement entretenue par la société de consommation, puisque bien entendu, plus on entretient des conduites de consommation chez les gens, et plus longtemps ça dure, meilleur se passe le commerce. Et c'est ce qu'on voit, et parmi les premiers effets, vous voyez, ça peut paraître étonnant de parler de ça comme addiction, mais les premiers effets, c'est les pratiques du look et les accessoires du look, sans lesquels l'adolescent d'aujourd'hui se sent en quelque sorte déshabillé. Et ça commence très tôt, dès l'âge de 7-8 ans, les jeunes gens commencent à revendiquer, ils veulent plus un jean comme ci, ils veulent un jean comme ça, ils veulent telle ou telle tenue, telle ou telle marque. Les marques de baskets, c'est incroyable, si vous voulez, les baskets aujourd'hui valent entre 120 et 350 euros. Vous vous rendez compte? 350 euros une paire de tennis? Une tenue standard d'ado aujourd'hui de 15 ans coûte 1000 euros. Ça fait cher quand même, hein? Et donc, le look, parce que ce sont des enfants de l'image, a une telle importance qu'ils se définissent aussi avec des codes de consommation. Alors, quel genre de code de consommation? Au niveau du look, il est de bon ton pour un adolescent d'avoir un paquet de cigarettes ou un paquet de tabac à rouler, parce que ça fait adolescent de pouvoir fumer. D'avoir éventuellement un selfie avec un verre de bière, ou mieux, de vodka, et éventuellement de mojito. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous dites à un adolescent « Est-ce que tout le monde connaît le mojito ?» Je ne l'ai pas fait ce matin au petit des cinquièmes quand même. Hein. Mais fort et de bras, oui, ils connaissent tous le mojito. Combien ça coûte? 8 euros, ils vous disent. C'est une valeur, si vous voulez, reconnue. Voilà, ça coûte tant, ça représente cette valeur-là. Donc, code de consommation qui s'expose. C'est-à-dire qu'on se montre avec la cigarette à la main, on se montre éventuellement devant le collège avec une cigarette, on pratique ou pas, forcément, mais on s'expose avec. Évidemment, la tentation, c'est de passer de l'exposition à la véritable consommation. Et vous vous doutez bien que si on commence à se présenter avec un paquet de cigarettes, il va être probable qu'on va se mettre à en consommer et à devenir, du coup, esclave, dépendant de cette pratique. Alors, ça me donne, ça, un premier conseil que j'aurais envie de donner aux parents et aux adultes d'une manière générale concernant le tabac. On me dit souvent, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que les adultes donnent le bon exemple en cessant eux-mêmes de fumer. Et c'est très gentil de dire ça, sauf que c'est pas possible. Sauf si les adultes se cachent. Auquel cas, s'ils se cachent, ce sont en fait des adolescents. Vieux, mais adolescents dans le comportement. Je pense que c'est pas que l'exemplarité n'est pas forcément dans la non-pratique de l'addiction. C'est en un, dans la reconnaissance de son addiction, dans la capacité de pouvoir dire à ses enfants, quand on est parent et qu'on fume des cigarettes, parce que je suis obligé de dire « fume des cigarettes », parce que « fumer » a le double sens aujourd'hui des cigarettes ou autre chose qui se fume. Reconnaître qu'on est dépendant de la cigarette et qu'on le déplore est une attitude adulte responsable. C'est ça qu'il faut pouvoir attendre d'un adulte. Reconnaître qu'il est dépendant, qu'il le regrette et qu'il serait même capable d'expliquer comment il en est arrivé à être addict. Et raconter ça à un adolescent est une bonne chose. Et la deuxième règle qui me paraît très importante, c'est de parvenir à définir des espaces de non-pratique. Et en particulier quand il s'agit de la maison, eh bien admettre que la maison est un espace sans tabac, mais attention, pour tout le monde. C'est-à-dire pour les parents, pour la fratrie plus âgée, pour les amis adultes qui viennent à la maison, pour tout le monde. Et les adolescents vont accepter de respecter la maison, l'espace sans tabac, à condition que ce soit respecté par les adultes. Ça, c'est une règle très importante. L'exemplarité, c'est ça, essentiellement, si vous voulez. C'est la capacité à définir des règles auxquelles on se soumet aussi dès lors qu'on veut, justement, afficher quelque chose de correct. C'est exactement la même chose pour les outils numériques.